1,
9h-11h,
Wendy Bouchard. Si vous nous rejoignez, bienvenue à vous sur Europe 1. On célèbre ensemble un anniversaire, les 130 ans de l'ouverture au public de la Tour Eiffel, alors que l'édifice était censé être démonté 20 ans après sa construction. 300 millions de touristes plus tard, comment la Dame de Fer de 324 mètres de hauteur est-elle devenue le symbole de Paris, le symbole de la France, troisième site culturel payant le plus visité au monde, une prouesse architecturale qui sera ce soir habillée de lumière pour un spectacle de circonstance. On plonge ensemble dans cette histoire, dans le génie aussi de Gustave Eiffel, avec un spécialiste et avec un des descendants de cet architecte fameux. Ma chère Julie, vous êtes prête ?
Oui, je suis prête.
On gravit ou l'ascenseur ou les 1700 marches, c'est vous qui soyez choisi.
Ça sera l'ascenseur.
D'accord.
Personnellement.
Voilà. Et ben, en tout cas, on est parti jusqu'à 11h.
9h, 11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec un spécialiste amoureux de la Tour Eiffel, architecte, ingénieur, historien, Bertrand Lemoine, bonjour.
Bonjour.
Vous avez consacré plusieurs ouvrages à ce monument, dont la Tour Eiffel de Monsieur, la Tour de Monsieur Eiffel aux éditions Gallimard, ou encore The Eiffel Tower aux éditions Tachenne. Et nous sommes également avec Savin Yetman Eiffel, bonjour.
Bonjour.
Réalisateur, scénariste et arrière petit-fils de Gustave Eiffel. Pour ce 15 mai qui marque donc un jour phare pour votre famille en particulier, pour les Français en général, c'était le 15 mai 1889. Bertrand Lemoine, racontez-nous ce qui se passe, vous qui avez revisité ces archives. C'est l'ouverture de l'exposition universelle de Paris.
Alors c'est l'ouverture de la grande exposition de 1889 qui célèbre précisément le centenaire de la Révolution française, qui célèbre aussi la puissance industrielle de la France, la puissance industrielle retrouvée après la lutte, la rivalité avec l'Angleterre, bien sûr. Donc la France a rattrapé son retard et veut montrer au monde, par cette exposition universelle, qu'elle est vraiment une des nations phares dans le monde. Et elle va justement pour épater le monde, en quelque sorte, pour montrer cette puissance et cette génie de l'esprit français. Elle va construire la tour la plus haute du monde, qui va être inaugurée, avec d'ailleurs un petit retard dans les ascenseurs, parce que les ascenseurs, c'est compliqué, c'est les ascenseurs les plus hauts du monde, on l'oublie aussi, jamais on avait fait des ascenseurs qui permettaient de monter à 300 mètres d'altitude, outre la structure. Et cette inauguration, elle va se faire d'abord à pied. Les notables vont arriver un peu essoufflés au sommet de la tour pour hisser le drapeau tricolore, bien sûr, pour marquer, bien sûr, ce succès fantastique. Et succès rondement mené, puisque la tour Eiffel a été construite finalement en un temps record dans une exposition qui s'est préparée elle-même de manière assez rapide. Donc finalement, un grand succès technique, un succès politique, certainement. Et puis un succès symbolique aux yeux du monde de construire la tour la plus haute, tout simplement, qui dépasse de très loin les plus hauts monuments existants à l'époque.
Construite en un peu plus de 2 ans, on va y revenir. En réalité, tout part d'un concours lancé dans le cadre de cette exposition universelle et dont l'objet, je cite, est d'étudier la possibilité d'élever sur le champ de Mars une tour de fer à base carrée de 125 mètres de côté, de 300 mètres de hauteur. Et parmi 107 projets, on choisit donc celui de votre aïeul, Gustave Eiffel, Savin, Yetman Eiffel. Cet anniversaire, c'est aussi le vôtre. Vous irez évidemment aux cérémonies ce soir.
Oui, j'y serai.
Oui.
Avec grand plaisir.
La dernière fois que vous avez visité la Tour Eiffel, c'était quand ?
Il y a 3 semaines.
Vous y alliez régulièrement ?
J'y vais très souvent, oui.
Et pour quelle raison ?
À une époque, j'habitais très près de la Tour Eiffel, donc je faisais mon jogging au Champ de Mars et je montais prendre un café. Il y avait encore un petit café qui était sympa au premier étage. Et puis j'y vais pour emmener mes enfants, pour emmener des amis. Ça m'arrive de participer à des interviews, des choses comme ça aussi autour de la Tour Eiffel. Donc, il y a un devoir de mémoire que fait la famille, dans lequel je m'investis beaucoup. Donc, c'est toujours un plaisir. Je retrouve toujours quelque chose de nouveau à la Tour Eiffel. J'ai toujours mon appareil photo avec moi. Et la lumière qui change donne toujours une vue différente de la tour. Donc, c'est vraiment une redécouverte à chaque fois.
Vous pensez à quoi quand vous êtes dans ce monument ?
Je me sens bien. Je me sens un peu protégé. Déjà, la tour a un côté très protecteur. Un peu, c'est une espèce de vieille dame de métal comme ça qui nous surveille, Je trouve qu'il y a quelque chose de rassurant dans Paris de savoir que la tour est toujours là, qu'un peu partout elle veille sur nous. Et moi, bien sûr, qui suis un descendant, ce lien un peu plus fort, ça peut être aussi un lien un peu dur à porter parce que parfois j'imagine un peu la tête de Gustave. Il y a des caricatures, on voit la tour Eiffel avec la tête de Gustave Eiffel qui ont été faites à l'époque. Mmh. Et parfois, je ressens un petit peu ça. Je vois un peu la tête de Gustave Eiffel qui me regarde et qui me dit « Alors, moi, j'ai fait ça, j'ai fait cette tour, et toi, qu'est-ce que tu as fait de ta vie ?» et tout. Donc, c'est un petit peu... parfois une petite pression, mais c'est plutôt une pique qui pousse à faire mieux.
C'est beau, dans le souvenir de cette image tutélaire, parce que cette idée naît en effet dans cette tête incroyable de créativité, d'innovation, d'ingéniosité, celle de Gustave Eiffel, qui crée une polémique incroyable, et j'aimerais qu'on en parle un peu après, on parlera des bienfaits et du rayonnement de la Tour Eiffel, mais à peine la première base de fondation posée, Bertrand Lemoine, il y a des pétitions d'intellectuels dans le tout Paris, je veux dire un peu bien pensant, qui s'insurgent contre ce drôle de projet qui va naître sur le Champ de Mars.
Oui, on sait quand même que la tour va être le clou de cette grande exposition universelle qui va d'ailleurs célébrer tous les grandes prouesses de l'architecture métallique de l'époque, avec le bâtiment le plus grand du monde. Mais on n'a pas tout à fait réalisé à quel point la tour va être importante, évidemment, va occuper le ciel parisien. Et les travaux ont à peine commencé que un ensemble d'artistes reconnus, pas des moindres, Maupassant, Guy de Maupassant, l'écrivain.
Maupassant, je peux le citer. Cette haute et maigre pyramide d'échelles de fer qui avorte en un ridicule et mince profil de cheminée d'usine.
Voilà, avec des qualificatifs bien sentis, avec Gounod, avec Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra de Paris qui vient de s'inaugurer. Voilà, des grands noms quand même de l'art français qui viennent signer une pétition en première page du journal le plus important de l'époque, qui s'appelait Le Temps, pour protester justement contre le caractère industriel de la tour et qui contraste avec ce Paris plutôt horizontal, plutôt blanc, qui vient de se transformer en profondeur depuis Haussmann, depuis le Second Empire, en cours de transformation encore. Et ce contraste entre cette structure, ce pylône en quelque sorte industriel de métal, cette grillage, comme le disent d'ailleurs ces pétitionnaires, et Paris, les choque. Ils ont raison d'une certaine manière. C'est effectivement une structure très, très, très puissante, très forte, qui contraste avec Paris. Bien sûr, dans le cadre d'une exposition universelle, mais même dans ce cadre-là, ces pétitionnaires s'insurgent contre la tour. Le commissaire de l'exposition, les pouvoirs publics soutiennent bien sûr le projet, leur donneront tort. Eiffel va répondre lui-même, d'ailleurs, de manière assez intéressante, en disant « Je ne prétends pas faire de l'art, je prétends simplement construire une forme, une structure qui est adaptée au calcul, qui est rationnellement pensée. Au fond, les pyramides d'Égypte, ce ne sont que des pierres bien empilées, régulièrement empilées, pour créer une structure géométrique. Et moi, ma tour, eh bien, c'est une esthétique aussi, qui n'est pas une esthétique artistique, en quelque sorte, c'est plutôt une esthétique technique qu'il revendique. Il a raison, là aussi, de ne pas se mettre exactement sur le même plan que les artistes de l'époque.
Je crois, dit-il, dans une réponse au journal Le Temps, en février 1887, que la tour aura sa beauté propre. Je prétends que les courbes des quatre arêtes du monument, telles que le calcul les a fournies, vont donner une grande impression de force et de beauté, car elles traduiront aux yeux la hardiesse de la conception dans son ensemble. En tout cas, ces polémiques ont inspiré, jusqu'au XXe siècle, Mouloudji, notamment. J'aurais vous écouté quelques secondes de sa complainte de la tour Eiffel. Tout de suite, Mouloudji pour vous.
On vient de la mettre au monde, la belle fille. Et déjà les méchants grondent, quel est présage de mort. Les uns disent qu'elle perce le ventre de l'éternel, comme jadis en la Perse faisait la tour de Babel.
Ah là, cette complainte de la tour Eiffel qui perce le ventre du monde. Savin, vous connaissiez sans doute cette chanson et surtout les polémiques nées au moment de sa construction.
J'ajouterais juste à ce qu'a dit Bernard que...
C'est
un peu une querelle entre les anciens et les modernes, parce que les architectes et les ingénieurs. Les ingénieurs, c'est la nouvelle force qui est en train de monter en puissance avec toute la construction métallique qu'il y a à partir du milieu du 19e siècle. Et les architectes voient d'un très mauvais œil que le clou d'exposition universelle soit construit par un ingénieur, même si Stephen Sauvestre, architecte, a participé à la construction. Ils sont très choqués de ça. Et dans les signataires, il y a beaucoup d'architectes, y compris Charles Garnier, qui est un petit peu une position un peu étrange, puisqu'il a travaillé avec Gustave Eiffel, notamment sur l'Observatoire de Nice.
Ouais, ben on va parler justement de Gustave Eiffel, l'entrepreneur, de ceux qui l'accompagnent, ingénieur, architecte aussi, dans ce projet ouvert au public il y a 130 ans au cœur de cette exposition universelle de Paris, cette dame de fer résistante à tout. Eh bien, nous faisons le tour de la question, on vous emmène dans son histoire jusqu'à 11h, ma chère Jolie.
On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro. La solution des pros pour imprimer des timbres poste depuis son bureau.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Le tour de la question devient exceptionnellement ce matin le tour de la tour.
Bravo.
La tour Eiffel, Wendy Bouchard.
Oh, la tour, quel événement aujourd'hui, les 130 ans de l'ouverture au public. Quel monument qui rayonne dans le monde entier, qui est devenu aujourd'hui l'un des plus beaux symboles de Paris, avec la cathédrale Notre-Dame. Bertrand Lemoine est avec nous, architecte, ingénieur, historien, spécialiste de cette tour Eiffel. Et le réalisateur scénariste Savin Yetman Eiffel, trois fois arrière, petit-fils de Gustave Eiffel, est en studio également. Rappelons, messieurs, que cette tour va être construite en 2 ans, 2 mois, 5 jours, ce qui est quand même une prouesse absolue, car nous sommes avec les techniques de l'époque. Bertrand Lemoine, montée à l'aide d'échafaudages en bois et de petites grues à vapeur.
Voilà, c'est un tour de force de construire aussi rapidement le monument le plus haut du monde. Sans doute la technologie de l'époque était rudimentaire. On utilisait des petites grues à vapeur qui grimpaient au fur et à mesure que la tour s'élevait pour monter les pièces. Les pièces elles-mêmes étaient d'ailleurs fabriquées, préfabriquées, on peut le dire, dans l'usine de Levallois-Perret, qui était l'usine de l'entreprise Eiffel, où les pièces étaient dessinées, tracées, percées, préassemblées en éléments de 3-4 mètres, pas très lourds, parce que c'est des charrettes tirées par des chevaux qui apportaient ensuite les pièces sur le site. Et tout ça s'était monté avec des petites grues et une main-d'œuvre relativement limitée. On ne pouvait pas non plus travailler à des centaines d'ouvriers sur la tour, parce qu'au fur et à mesure que la tour montait, la place se réduisait, bien sûr, et le nombre de personnes était beaucoup plus réduit. On a tout de même fait des grands échafaudages en bois pour soutenir l'amorce des 4 piliers, qui partent indépendamment chacun sur un massif de fondation en pierre, et pour soutenir les grandes poutres du premier étage. Donc, gros échafaudage en bois jusqu'au premier étage, et ensuite, eh bien, c'est la tour qui s'élève elle-même.
Par un système de mécano, quasiment.
Comme une sorte de mécano géant, où les pièces arrivent préfabriquées. Si les pièces, d'ailleurs, n'étaient pas tout à fait adaptées, elles devaient coïncider exactement pour être bien assemblées, on les renvoyait à l'usine, le Levallois-Perret, c'était pas très loin. Mmh. On les refroidait, on les retouchait éventuellement. Et ensuite, on ne faisait que le montage sur
place.
Et un montage fait de manière très expéditive. Tout de même par une équipe de gens qui étaient bien entraînés. À la base, l'encadrement avait déjà travaillé sur des grands viaducs, comme le viaduc de Garabit dans le Massif Central, qui était achevé juste quelques années plus tôt. Donc il y avait cette expérience aussi des grandes structures. Mais jamais, bien sûr, de structure à 300 mètres d'altitude.
Avec 4 personnes pour mettre un rivet sur cette
voilà, la tour est assemblée au moyen de rivets, ces espèces de gros clous qu'on va chauffer, qu'on va écraser quand ils sont encore chauds et un peu tendres. Et ensuite, en se refroidissant, ils vont serrer les pièces les unes contre les autres. Des rivets, il y en a 2 500 000 sur la tour.
2 millions de
rivets. Beaucoup. La moitié, quand même, ont été posés dans l'usine avec des machines, mais l'autre moitié ont été posés sur place, à la main. Ouais. Un gros costaud qui tape sur le marteau, un autre qui tient, un petit mousse qui fait chauffer le rivet dans un brasero, un autre qui assiste. Donc voilà, des petites équipes comme ça, un peu autonomes, et qui posaient chacune une quarantaine de rivets par jour, dans des conditions absolument acrobatiques. Quand on voit les photos de l'époque, ils sont sur des petites plateformes, sans assurance, sans garde-corps, mais voilà, ils avaient l'habitude de travailler.
Mais chantier parfait, parfaitement réalisé, pas de mort.
Pas de mort pendant les heures de travail, pas de mort officielle en quelque sorte. Oui. Un mort qu'on déplore en dehors des heures de travail, peut-être quelqu'un qui a voulu, paraît-il, épater sa fiancée, en tous les cas qui est tombé. Donc le seul mort, mais autrement un chantier extrêmement bien organisé, bien mené, et en plus au vu et au su de tout le monde. Un chantier public qui était en soi d'ailleurs une attraction incroyable avant que la tour soit construite.
Tout cela en 2 ans, 2 mois, 5 jours, ce qui fait aussi la fierté de votre famille, Savin, cette prouesse technologique.
Tout à fait. Eiffel était un vrai capitaine d'industrie. C'était quelqu'un qui a construit des ponts dans le monde entier, des ouvrages. Il y a la tour Eiffel, bien sûr, mais on oublie un peu tout ce qu'il a fait ailleurs. L'architecture de la Statue de la Liberté, le pont Maria Pia à Porto. On parlait de Garabit tout à l'heure, donc des ouvrages incroyables. Il a, sans compter tout le travail scientifique qu'il a fait dans la fin de sa vie aussi. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était plus grand que nature, qui était une personnalité vraiment phare de l'époque.
Et je vous remercie d'avoir amené avec vous quelques archives de la famille. J'aimerais que vous nous en parliez davantage après une petite pause. Si vous nous suivez en vidéo sur europe1.fr, vous pourrez apprécier aussi ces visages d'époque. Et sinon, on les remettra sur les réseaux sociaux pour que vous voyez aussi comment la Tour Eiffel fait partie de la vie de notre invité, de notre vie à nous tous. 300 millions de visiteurs depuis l'ouverture au public, c'est quelque chose. 2 millions de visiteurs pendant la seule exposition 1889. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
La Tour Tour Eiffel, un mythe et une histoire. On vous la raconte, cette Tour Eiffel, avec Wendy Bouchard et ses invités.
La Tour Eiffel qui a effrayé les intellectuels, les artistes dès sa construction, qui irrigue aujourd'hui les touristes du monde entier, 300 millions de visiteurs plus tard. Comment est-elle devenue la légende qu'elle est devenue? N'hésitez pas à nous dire si vous avez des souvenirs particuliers avec ce monument de Gustave Eiffel qu'on met à l'honneur aujourd'hui avec nos différents invités. Bertrand Lemoine, architecte, ingénieur et historien spécialiste de la Tour Eiffel. Il a écrit La Tour de Monsieur Eiffel, notamment aux éditions Gallimard, et avec Savin Yetman Eiffel, réalisateur, scénariste et arrière-petit-fils de Gustave Eiffel. Avant que vous nous montriez vos archives, cher Savin, il faut apprécier aussi le sens de l'investissement de Gustave Eiffel dans cette histoire. Au départ, c'est une commande quand même pour l'exposition universelle, on a bien compris, Bertrand Lemoine. Donc des subventions à la clé.
Enfin, tout au départ, c'est d'ailleurs une idée de, non pas d'Eiffel, mais de ses deux principaux ingénieurs, Maurice Koechlin, spécialiste du calcul et de la conception des structures, Émile Nouguier, spécialiste du montage des grandes structures, oui, qui propose l'idée à Eiffel. Eiffel s'en empare, c'est inscrit dans le programme du concours pour l'exposition, et Eiffel obtient une subvention parce que la tour doit figurer la porte d'entrée de l'exposition. Une subvention d'un million et demi, qui couvre grosso modo un quart. Même un petit quart de la construction. Bon. Le reste, eh bien, c'est Eiffel qui le finance, qui emprunte auprès de trois banques, qui prend le risque financier, non seulement de concevoir, de construire la tour, mais également de la financer. Ça, c'est aussi peut-être une marque de confiance exceptionnelle, oui, dans son propre jugement, dans sa propre capacité de constructeur, mais aussi dans son... Ça témoigne aussi de son esprit de chef d'un capitaine d'industrie, de cette entreprise. C'est quand même lui qui assume complètement la construction de la tour, même si la tour est un monument officiel de l'exposition universelle, bien,
oui,
entendu.
Donc une petite subvention et la mairie de Paris, enfin la ville de Paris, qui met à disposition ce terrain.
Voilà, qui lui concède le terrain, parce que le terrain est sur le Champ de Mars, appartient à la ville de Paris. Et donc la ville de Paris concède pour 20 ans à Eiffel la possibilité d'utiliser le terrain pour construire sa tour.
D'accord.
Au bout de 20 ans, 1909, normalement, le terrain aurait dû revenir à la ville de Paris. Et c'est là, justement, que les choses étaient un peu incertaines, puisque au bout de 20 ans, la ville de Paris aurait pu décider de conserver la tour, aurait pu aussi décider de ne pas la conserver, de la détruire, comme la Galerie des Machines, qui était le plus grand bâtiment du monde au fond du Champ de Mars, a été détruit à peu près à cette époque. Et finalement, c'est peut-être aussi la deuxième fois qu'Eiffel a manifesté son génie, c'est qu'il a compris que la tour portait son nom déjà et serait pour lui une marque bien sûr incroyable pour la postérité.
Ouais.
Et il a entrepris de montrer que sa tour était utile. Et il a réussi à le démontrer, notamment parce que la tour a pu servir de support pour des émissions de radio à longue distance, notamment avec les frontières de l'Est de la France, donc une importance militaire stratégique qui a fait que la tour a été conservée pour cette raison.
Voilà, il s'est engagé vraiment dans tous les sens du terme dans ce projet, votre aïeul, Savin. Vous avez amené des photographies d'époque, et l'époque plus ou moins proche, mais je voudrais que vous nous en décriviez quelques-unes. Vous pouvez les montrer à la vidéo, en vidéo.fr. Décrivez-nous d'abord celle-ci, bien face à la caméra, Savin. Celle-ci, pardonnez-moi. Allez-y.
Alors là, c'est ma grand-mère, Janine.
Elle a quel âge ?
Toute petite. Elle doit avoir 8 ans, là, 9 ans.
Peut-être. Oui.
C'était la fille aînée de Claire.
Et elle tient la main de Gustave Eiffel.
De Gustave Eiffel, bien sûr. Donc, c'était la petite fille de Claire, qui était la fille aînée de Gustave, qui était un peu la fille préférée, qui est devenue un peu la chef de famille après la mort de sa mère en 1877. Elle avait 14 ans. Eiffel était très pris par ses projets, était très affecté par cette mort. Et c'est cette gamine de 14 ans qui va commencer à l'accompagner dans ses voyages, qui va prendre en main la famille, superviser un peu les études de ses frères et sœurs, et qui va un peu devenir la maîtresse de maison. Et ça sera vraiment une relation très fusionnelle entre le père et la fille. Quand ils sont séparés, ils s'écrivent tous les jours.
Oui.
Ses autres filles se marient, il les laisse faire. Mais quand Claire veut se marier, il passe un deal avec Adolphe Salles, son gendre. Il lui dit, tu peux te marier, mais tu viendras habiter
à la maison,
tu habiteras, ouais, dans la maison.
Je te surveille.
Donc, rue de Progny dans leur première maison dans le 17e, et ensuite rue Rabelais dans le grand espèce de palace incroyable que Eiffel s'achète au début des années 1900. Au deuxième étage, voilà, le deuxième étage est réservé à Claire et sa famille. Et donc, Eiffel, c'est un pater familias. Il a eu une enfance assez difficile. Il a été élevé par sa grand-mère qui était... parce que c'est sa mère qui avait une société en plein essor de commerce de houille, s'occupait assez peu de lui et son père aussi.
D'accord.
Et donc il a été élevé par une grand-mère acariâtre qui devait lire la Bible. S'il lisait mal, il se faisait taper avec une canne. Il devait lui-même aller chercher la canne pour se faire taper. Il raconte ça dans ses mémoires, donc c'est assez rigolo. Et la fois où il, pris de colère, il casse la baguette devant la grand-mère, le père la prend, le fouette. Enfin bon, c'était une enfance quand même un peu rude, un petit peu dure.
Ah ouais,
à l'époque aussi, il faut se mettre un peu à l'époque, les mœurs étaient un peu différentes. En tout cas, il n'a pas une enfance très, même s'il respecte beaucoup ses parents et qu'avec sa mère, il a une relation très proche.
Mais il veut créer tout
pense,
le contraire.
Il a voulu, avec ses enfants et ses petits-enfants, essayer de créer une espèce de grande famille qui vit sous le même toit. Donc, il a vécu avec ses enfants, après ses petits-enfants dans la même maison.
Cette photo, elle date de quelle année avec votre grand-mère ?
Alors, j'ai pas la date
exacte,
mais je pense que c'est 1921, 1922 par là. Ouais. Effet est mort en 1923.
C'est ça, à l'âge de 91 ans,
juste après son anniversaire, le 15 décembre. Il est mort le 27 décembre.
Oui.
Et pour la petite histoire, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que ce brave Adolphe Salles, qui a vécu donc toute sa vie dans la même maison que son beau-père, qui a travaillé avec lui, qui était un ingénieur aussi très émérite, polytechnicien, qui a fait plein de grandes choses par la suite. Il a quand même vécu toute sa vie avec son beau-père. Et trois jours après la mort de Gustave Eiffel, il meurt d'une crise cardiaque. Et les deux cercueils sont dans la maison, dans le salon de la maison exposée.
Incroyable.
Donc c'est une relation qui était fusionnelle jusqu'au bout.
Eh bien, mort en 1923, 91 ans, Gustave Eiffel, qui aura donc vu briller la tour Eiffel avec
juste que sur ma grand-mère, elle a passé beaucoup de temps avec lui, donc elle habitait dans la même maison.
Oui.
Elle passait ses vacances avec lui. Il lui a appris à nager en la jetant dans la... Il avait une maison à Vevey, près du lac Léman. Il l'a jeté au milieu du lac pour l'apprendre à nager.
Ouais.
Donc il y avait c'était une relation qui devait être assez particulière avec ce grand homme, cette grande figure qui était très impressionnante déjà à l'époque.
Et merci de partager ces souvenirs aussi. On fait une petite pause, on vous retrouve juste après, messieurs. Nous avons Marc qui veut réagir au 39-21 sur la Tour Eiffel.
Ce 15 mai marque un jour phare pour les héritiers de Gustave Eiffel. Sa tour fête les 130 ans de sa présentation à l'Expo Universelle de Paris. Les 130 ans de son ouverture au public, c'était le 15 mai 1889. Wendy Bouchard.
Et c'est alors le plus grand monument au monde, 324 mètres de hauteur. Si on va tout en haut de l'antenne aujourd'hui, on en parle avec Bertrand Lemoine, qui est spécialiste de la tour Eiffel, architecte, ingénieur, historien, et avec l'un des descendants de Monsieur Gustave Eiffel, Savin Yetman Eiffel. Il a conçu cet ouvrage inoxydable, ultra résistant. Pourquoi en fer, Bertrand Lemoine ?
Le fer était le matériau d'abord de prédilection d'Eiffel, de son entreprise. Toutes les charpentes, les ponts, les grandes structures qu'il a construites étaient toutes en fer. C'était un matériau qu'on connaissait depuis longtemps, le fer bien sûr de l'Antiquité déjà, mais qu'on savait produire d'une manière industrielle en quantité suffisante à un prix abordable que depuis les années 1840-45.
Ah, oui.
Donc c'est les progrès de l'industrie au fond qui ont mis à disposition ce matériau qui lui-même a été le vecteur de l'industrialisation, de la construction des chemins de fer, des grands ponts, des grands ouvrages, des grandes structures, des grands bâtiments nouveaux qui accompagnent en fait l'essor de la société industrielle. Et Eiffel maîtrisait parfaitement le fer. À l'époque, on commençait à utiliser de l'acier, qui est un fer un peu plus raffiné, disons, de manière plus précise, plus résistant. Mais Eiffel connaissait moins l'acier, avait moins confiance dans les capacités de ce matériau un peu nouveau. Il a préféré utiliser ce matériau bien classique, qui est le fer, pour construire une tour avec des technologies qu'il maîtrisait parfaitement. C'est au fond la tour, une extrapolation des grandes structures, des grands ponts par exemple, qu'il construisait
déjà
à l'époque.
Jacques nous écrit de Créteil, il a 74 ans et il dit avoir vu dans sa jeunesse les plans de la tour Eiffel dans un musée. Si ma mémoire est bonne, ajoute-t-il, elle devait être liée à 4 passerelles. Pourquoi n'en parle-t-on jamais ? Vous avez vu ces plans d'époque, ces premières épures peut-être ?
Alors, tous les plans de détail de la tour Eiffel sont conservés soigneusement. On pourrait la reconstruire à l'identique si on devait le faire, d'ailleurs. Non, après, il y a eu des projets de transformation de la tour, notamment en 1900. Et je pense que le projet avec les passerelles, c'est peut-être un projet de 1900, fait par Sauvestre, l'architecte de la tour.
D'accord, et des passerelles qui reliaient quoi
de prolonger par des petits pylônes, d'élargir en quelque sorte la tour Eiffel. Mmh. Donc, il y a eu beaucoup de projets qui se sont amusés aussi à habiller la tour, à la transformer. Non, la tour elle-même a été un peu transformée par rapport à sa conception initiale, hein, celle des ingénieurs d'abord, celle de l'architecte Stephen Sauvestre qui avait redessiné la tour, finalement un projet un peu simplifié. Ce qui a beaucoup changé peut-être dans son aspect, c'est surtout l'organisation des étages, du premier étage. Il y avait une petite galerie qui a été transformée en 1937, les restaurants ont changé, les bâtiments ont été reconstruits récemment au premier étage. Donc ça, ce sont des aménagements de détails, et le sommet aussi, qui a changé beaucoup.
D'accord.
Qui s'est un peu surélevé, qui aujourd'hui est un peu hérissé de multiples antennes qui n'existaient évidemment pas à l'origine de la tour.
Mais on a toujours les ascenseurs d'époque ?
Ce qui reste dans les ascenseurs, c'est les machineries d'époque.
Oui.
N'oublions pas que les ascenseurs étaient mus par la machines à vapeur, par des machines à vapeur. Il y avait une petite usine, la cheminée subsiste toujours, juste à côté de la tour, pour produire la force motrice pour élever les cabines d'ascenseurs. Remplacées par des ascenseurs électriques en 1900, l'électricité était vraiment balbutiante en 1889, et ensuite modernisée, y compris l'ascenseur qui va du deuxième au troisième étage, qui a été lui complètement changé.
Oui. Sinon, les autres sont là depuis 119 ans.
Sinon, la machinerie, les grandes poulies, les contrepoids qui permettaient de récupérer une partie de l'énergie sont toujours présents et font partie d'ailleurs de l'attraction que constitue la Tour Eiffel.
C'est magnifique. Alors ce soir à 20h30, grand spectacle, d'abord concert, puis à partir de 22h, show, son et lumière au pied de la Tour Eiffel. Ça sera à la fois ce soir, demain et le 17 mai. Vous avez 3 jours pour vous régaler. Et nous avons Marc au standard avec nous au 39-21. Bonjour Marc.
Bonjour.
Vous nous signalez aussi un beau spectacle en ce moment au Théâtre des Mathurins jusqu'au 29 juin qui retrace l'histoire de la Tour Eiffel, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. C'est un spectacle, donc moi je suis l'auteur du spectacle.
Ah, très bien, super, ouais. Comment s'appelle le spectacle ?
Le spectacle s'appelle La Tour de 300 mètres. Mmh. Et c'est une comédie musicale qui retrace l'histoire de la construction de la Tour Eiffel. Donc depuis le début du projet jusqu'à sa pérennité.
Mmh. Et une comédie musicale qui retrace aussi un certain nombre de polémiques, on en parlait tout à l'heure, jusqu'au fait qu'elle devient le monument qui fait rayonner Paris dans le monde entier.
Voilà, donc on va suivre bien sûr la vie de Gustave Eiffel et aussi cette aventure à travers des personnages, notamment les riverains du Champ de Mars par exemple, qui n'étaient pas très contents de voir ce pylône s'élever dans leur jardin, ou bien encore les artistes qui ont signé la pétition contre l'érection de la Tour Eiffel.
Ouais, oui, finalement l'histoire se répète, regardez les polémiques aussi liées au centre Beaubourg à l'époque, hein. Chaque fois qu'un monument détonne ou que la pyramide du Louvre, à chaque fois qu'un monument détonne, ouais. Bertrand Lemoyne, il y a ce genre de mobilisation. Hein.
Oui, malgré le contexte de l'Expo universelle, malgré ce contexte justement qui se prêtait qui très bien à quelque chose de nouveau et d'incroyable, malgré ça, les riverains, les artistes, un certain nombre de gens ont protesté. Mais cette protestation a été finalement assez vite balayée, non seulement parce que la tour s'est construite, mais parce que le public était là, était au rendez-vous, c'était un succès populaire extraordinaire. Et donc finalement, on a oublié ces polémiques très très rapidement.
2 millions de visiteurs pendant l'Expo universelle. La tour de 300 mètres au Théâtre des Mathurins, vous connaissez, vous êtes allé voir le spectacle,
Samin ? J'ai vu, c'est très drôle et on rit beaucoup et on apprend beaucoup de choses puisqu'en très peu de temps... Marc a su mettre beaucoup d'éléments en fait historiques. On voit beaucoup de personnages qui interviennent, repartent, qui sont des figures historiques, qui viennent un peu faire leur petit passage. Et c'est très rigolo. Il y a des petites choses un petit peu déformées pour la qualité de la narration sur Adolphe, mais c'est rigolo. Il y a Adolphe et Claire aussi qui se rencontrent, etc. Donc c'est très amusant et on apprend beaucoup de choses dont je ne peux que le conseiller.
Eh bien, merci beaucoup. Voilà, c'est l'un des descendants de Gustave Eiffel qui le dit. J'ai appris il y a quelques heures d'ailleurs que Romain Duris allait incarner prochainement dans un film Gustave Eiffel, un film retraçant notamment l'histoire d'amour et l'histoire de famille de Gustave Eiffel, donc c'est bien que vous soyez ici pour nous en parler. Également, Savin Yetman Eiffel avec Bertrand Lemoyne avec nous et Marie-Florence qui veut réagir dans un instant. Le standard est ouvert jusqu'à 11h les amis. Le 39-21.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Comment la Tour Eiffel est-elle devenue un monument si emblématique ? On en parle avec Wendy Bouchard et ses invités.
Au pendant la pause, j'apprends que Charlotte Arrigoni, qui a préparé l'émission avec moi, a 300 Tour Eiffel chez elle. Ou j'apprends que Julie, vous faites la collection aussi d'objets rares.
D'objets en Tour Eiffel, oui, c'est ça.
Et par exemple, le dernier acquis.
Le dernier acquis, c'est un tout petit porte-monnaie en nacre noir, mais minuscule, comme une petite boîte d'allumettes, avec une incrustation de Tour Eiffel en argent sur le boîtier.
Oui.
Quand on l'ouvre, il y a des tas de petits soufflets comme ça en cuir rouge pour mettre les pièces.
Et c'est parce que l'objet...
J'adore les Tour Eiffel.
Oui, c'est ça.
Mais aussi, les photographies. Aussi, là où je trouve des Tours Eiffel dans le monde, à Kaboul, sur une porte de garage, il y avait une Tour Eiffel peinte sur fond rouge.
Oui.
Comme ça, alors les
photos... Vous l'avez découpée ?
Voilà, oui, je l'ai photographiée. Oui. Et puis, ça fait partie aussi de ma collection de Tours Eiffel.
Et vous me parlez de la Tour Eiffel de Tokyo.
Mais horrible, hein, elle est horrible.
Je ne connaissais pas. Qu'est-ce que c'est, la Tour de Tokyo ? Bertrand Lemoyne, c'est quoi ?
C'est une grande antenne qui est conçue un peu dans le même principe, c'est-à-dire des piliers qui s'évasent à la base pour donner de la stabilité, mais construite vraiment comme une antenne qui est un monument dans Tokyo, mais qui n'a pas, à mon avis, la beauté ou l'équilibre formel de la Tour Eiffel.
Mais qui s'est inspiré.
Pour les Japonais, c'est vraiment une tour qui est quand même très charismatique, puisque dans tous les films de Godzilla, etc., on voit cette tour de Tokyo. Donc, il y avait encore très peu de grands bâtiments. J'habitais au Japon plusieurs années, donc je connais bien la tour de Tokyo. Il n'y a pas du tout d'immeubles quand cette tour a été construite. Et donc, c'était vraiment des toutes petites maisons encore de 2 étages. Et tout d'un coup, au milieu de rien, cette énorme tour, elle était vraiment encore plus impressionnante pour les riverains, peut-être. Enfin, non, peut-être pas. C'était pas la même époque, mais on peut pas être plus impressionnant que la Tour Eiffel de 89.
Mais par exemple,
mais en tout cas, c'était très impressionnant. Et pour les Japonais, c'est aussi quelque chose qui est un petit peu charismatique.
Est-ce qu'on a demandé l'autorisation à la famille Eiffel pour construire cette tour de Tokyo?
Elle ne ressemble pas.
C'est pas les mêmes plans. Il faut dire que vous êtes 70 descendants majeurs de Gustave Eiffel, mais que depuis 40 ans, elle ne vous appartient plus.
Oui, alors la famille Atelier, donc, très directement, puisque Eiffel, on le disait tout à l'heure, a financé la tour en très grande partie.
Oui.
Au fur et à mesure que Eiffel lui-même, puis ses descendants, ont obtenu l'extension de la concession, la famille est toujours restée attachée, même si on avait de moins en moins de parts, ou plus de toutes parts dans la société elle-même assez rapidement. Mon grand-père était président du conseil d'administration pendant assez longtemps, mmh. Donc il y a vraiment un lien direct. Je me rappelle aussi, donc, pour parler du lien de la famille, j'ai une photo d'ailleurs là. Mon père, quand il faisait ses anniversaires, on privatisait une partie du premier étage.
Vous pouvez montrer la photo. Génial, c'est génial.
Ça, c'est le privilège. En 1948, et pour ses 5 ans là. Donc, voilà.
Ah, c'est magnifique. Ah, oui. Et là, vous avez privatisé le premier étage à la Tour Eiffel.
Moi, je suis arrivé un petit peu tard. Je sais que ma tante me racontait aussi que pour ses 18 ans, il s'est fait un grand bal au premier étage de la Tour Eiffel, en robe, etc.
Vos grands-parents,
ma grand-mère et mon grand-père, en 1935, ont passé leur nuit de noces. Au dernier étage de la Tour Eiffel, ouais, où Gustave Eiffel avait toujours son... Enfin, il y a toujours l'appartement de Gustave Eiffel qui a été détruit plus tard pour mettre les locaux TDF.
Ouais.
Qui avait cet appartement privé, on pouvait dormir, on pouvait manger.
Donc là, on voit votre grand-mère avec le champagne. Pour leur nuit de noces, 1935. Voilà,
et mon grand-père en pyjama, là,
Voilà, et l'histoire se prolonge bien jusqu'en 1979.
Voilà, c'est la fin de la concession, il n'y a plus de lien direct avec la famille. Il y a eu des tiens un peu d'errance et un peu de... Il n'y a plus de contact très, très fort entre la tour et la famille, mais maintenant les choses sont bien posées. On a des relations très cordiales avec la SET, donc la société d'exploitation de la Tour Eiffel, qui gère maintenant la tour. Et on est très heureux de participer avec eux à des manifestations ou des choses pour célébrer la mémoire de notre ancêtre.
Vous vouliez réagir à ce lien entre famille justement et société aujourd'hui, Bertrand Lemoine?
Oui, il y a un lien fort. La famille se préoccupe d'ailleurs de la mémoire d'Eiffel aujourd'hui, oui. Peut-être davantage qu'avant, parce qu'effectivement, Eiffel aussi a grandi dans la reconnaissance internationale, universelle. On parlait de la tour de Tokyo, mais il y en a à Berlin, il y en a à Shenzhen, il y en a une à Las Vegas également. Il y en a beaucoup dans le monde, au fond, qui reproduisent.
Celle de Las Vegas.
Plus ou moins d'ailleurs. C'est qui? Celle de Las Vegas en gros tube.
Enfin, ça va pas partout,
Eiffel. Elle est mal proportionnée, celle de Las Vegas.
Elle est en gros tube, on était entraînés. Enfin bon, déjà, c'est une interprétation quand même. Mais enfin, il y a cette image très, très, très forte, effectivement. Et du coup, la renommée d'Eiffel est devenue aujourd'hui. Fantastique. Tout de même, c'est une tour, un bâtiment qui porte le nom de son concepteur. Déjà, c'est assez rare. Mmh. Ce bâtiment tout à fait exceptionnel, c'est encore plus rare. Et donc, Eiffel, bien sûr, sa notoriété a grandi au fur et à mesure que la reconnaissance internationale touristique de la tour aussi, bien sûr, a grandi. J'ajoute aussi que j'ai eu le privilège extrêmement rare de pouvoir fêter aussi mon anniversaire il y a quelques années au premier étage de la Tour Eiffel. C'était vraiment un grand moment,
rien que pour vous, très fort,
rien que pour moi. Ah, pas tout le premier étage.
Bah oui, vous avez dédié des livres superbes à la Tour Eiffel. L'histoire vous a bien rendu l'appareil.
Voilà, c'est un lieu dans lequel j'aime beaucoup aller. Je suis allé peut-être au moins, je sais pas, 100 fois, 150 fois, je ne sais pas, très régulièrement en tous les cas.
Mais il vous bat, hein, ça va y être magnifique, il va tous les
mois. À côté. Mais en tous les cas, j'ai beaucoup fréquenté. Et je conseille d'ailleurs aux visiteurs de monter à pied,
oui,
par les escaliers. C'est pas si fatigant que ça. Mm. Et c'est vraiment une expérience. On est dans la structure, l'intérieur même. On comprend progressivement où on est,
ouais,
plutôt que de monter rapidement en ascenseur qui vous mène tout de suite au deuxième étage. On se prive, je pense, d'un plaisir incroyable que d'être dans le ciel de Paris, de découvrir progressivement Paris, et puis de découvrir cette structure incroyablement légère aussi. C'est ça peut-être qui frappe le plus, c'est que la Tour Eiffel, il n'y a pas beaucoup de matière, on est un peu dans le vide,
ouais,
et on est toujours stupéfait, encore moi aujourd'hui, que tout ça puisse tenir, défier d'ailleurs les ouais, années, comme on le voit.
Il y a combien de marches?
1729, je crois.
C'est
assez haut.
Asthmatique,
mais on monte pas jusqu'au troisième. On monte jusqu'au deuxième seulement à pied.
Il y en avait 1713 à l'époque, il y en a 1665 maintenant, parce qu'on a retiré les étages de du compagnie. Ah ouais.
Mais qu'est-ce qu'on avait vendu à une époque? On n'avait pas vendu.
Vous savez qu'il faut faire la pause à un moment donné.
D'escalier de la Tour Eiffel.
Si, on a vendu des
escaliers. Il y avait un escalier de secours, en quelque sorte, qui allait du deuxième étage au troisième étage. C'était un escalier en colimaçon, très étroit, avec un gros noyau central. Une petite garde-corps. Je l'ai descendu, moi j'ai pas monté, mais je l'ai descendu du troisième au deuxième. C'était vraiment vertigineux. Il n'était pas question que le public puisse l'emprunter, même en cas de problème. Donc on l'a remplacé. On l'a coupé en tronçons. Il y a un tronçon qui est exposé au premier étage de la tour, qu'on peut toujours voir. On l'a remplacé par un escalier avec des paliers, beaucoup plus praticable, en cas de nécessité, si les ascenseurs, par exemple, étaient en panne.
À tout de suite, chers amis.
Quelques minutes encore consacrées à la Tour Eiffel que l'on célèbre à l'occasion de ses 130 ans d'ouverture au public.
Alors, échange rap à fromage Tour Eiffel contre bougeoir Tour Eiffel ou porte-sucette Tour Eiffel. Il y a des enchères qui sont en train de se faire, messieurs Savin, Yetman, Eiffel et Bertrand Lemoine sur tous ces petits objets de collection liés à la Tour Eiffel.
Flûte à champagne avec des pieds en Tour Eiffel.
Et vous avez une brosse à dents Tour Eiffel,
brosse à dents Tour Eiffel aussi, oui.
Eh bien, dis donc, et vous exposez tout ça où? On peut voir tous les jours de la soirée. Dites-nous les horaires d'ouverture. Voilà, savez-vous que la Tour Eiffel a été rouge, jaune par le passé, n'est-ce pas Bertrand Lemoine? La peinture n'a pas toujours été marron glacé comme aujourd'hui.
Non, elle a changé de couleur plusieurs fois, parce qu'elle est repeinte en moyenne à peu près tous les 7 ans. Donc elle est repeinte, je crois, 17 ou 18 fois. Sa couleur d'origine était beaucoup plus rouge. C'est la couleur de la protection, en fait, contre la corrosion, puisque la tour est en fer et donc a besoin d'être protégée des intempéries pour ne pas rouiller, tout simplement. Et on a rajouté, couche après couche, en changeant, elle était plus rouge au départ, jaune à un moment. Et puis finalement, ce marron glacé, d'ailleurs avec trois nuances de marron, hein, qui est un peu plus clair au sommet, qui permettent
c'est
de
pas
la.
Perceptible,
oui, justement,
ça.
C'est parce que ça permet justement de rendre. Si le marron était plus foncé au sommet, on se rendrait compte peut-être de la différence de couleur. Donc c'est assez subtil. Mais elle a cette couleur maintenant presque. Qui est devenue canonique, qu'elle passe, même, on imaginerait mal la tour repeinte en rouge, même si elle peut être éclairée de différentes manières.
Ah oui, on l'imagine, souvenez-vous de ce bleu-blanc-rouge projeté aussi au moment des attentats de Paris et ce fluctuac necmergiture, car la tour Eiffel aussi se pare de lumière, de couleur en fonction des événements distincts qui nous réunissent, d'ailleurs Savin, Yetman, Eiffel. Ça c'est assez émouvant parce qu'elle devient aussi symbole de ce qu'on vit.
Oui, elle est devenue la symbole de Paris par extension de la France et quelque part aussi d'une certaine un certain état d'esprit de progrès quoi. Et donc je pense que dans le monde entier, on parlait vous avez des petites collections de Tour Eiffel les uns les autres. Je pense que dans le monde entier, il y a des gens aussi qui sont attachés physiquement à la tour et à ce qu'elle représente. Un certain état d'esprit, c'est une autre époque aussi, la fin du 19e, encore tous les espoirs étaient permis, le progrès de la science, et je pense que cette tour, elle est vraiment emblématique de tout ça, et elle est vraiment devenue un symbole qui dépasse nos frontières, qui est devenu un symbole mondial.
Oui, qui était auparavant éclairé de l'extérieur, qui maintenant a un système d'éclairage qui permet de la mettre vraiment
magnifique.
Beaucoup plus en valeur. Avec
petite lumière, là.
Voilà, combien de lumière
Oui, il y a des petites têtes un peu partout, elles sont collées sur la structure. Auparavant, c'est des gros projecteurs qui étaient à la base, ce qu'il éclairait depuis les années 80, c'est un éclairage intérieur qui l'a fait un peu resplendir de l'intérieur, donc qui l'habille de lumière. Et aujourd'hui, avec la possibilité des LED, donc de lui donner des couleurs, elle a été rouge quelques temps au moment de l'année de la France en Chine, elle a été bleu, blanc, rouge, elle a été verte pour la Coupe du Monde de rugby, je me souviens. Enfin, elle a pris plusieurs couleurs.
Et puis il y a le phare en haut, là, la lumière qui tourne.
Alors, c'est un faux phare, en fait, hein, qui en fait balaye un quart de l'horizon, mais qui se relaye. Il sert simplement à marquer le sommet de la tour. Il n'a pas de rôle.
D'accord, mais pour les avions quand même.
Pour les avions quand même, enfin.
Le repère.
Bien sûr.
Et puis elle sert de paratonnerre pour l'Ouest parisien aussi, cette tour.
Alors, c'est un grand paratonnerre. On a vu, il y a des photos très spectaculaires de la foudre qui tombe sur la tour. Bien entendu, il y a un paratonnerre.
La foudre tombe à peu près 10 fois par an sur la tour. Donc c'est quand même assez grand, puisque j'avais lu qu'un bâtiment à Paris, il y a une chance. Une fois tous les 800 ans que la foudre tombe dessus. Et la tour Eiffel, c'est 10 fois par an, ce qui est assez impressionnant. Mais il y a les paratonnerres qui protègent. Et si la tour n'était pas touchée, était touchée ailleurs, avec l'effet de la cage de Faraday, ce qu'on appelle la cage de Faraday, en fait, la tour protège les gens qui sont à l'intérieur.
Oui, c'est ça.
Donc, il n'y a jamais eu d'accident lié à la foudre, même si c'est très impressionnant quand elle tombe effectivement sur la tour.
Le point culminant qui sert encore d'antenne
Il y a beaucoup d'antennes au sommet de la tour, de toute nature. Et c'est pour ça d'ailleurs que le sommet a beaucoup changé par rapport à ce qu'on voit sur les photos d'époque. Il y a même un studio qui a été installé où plus personne ne va, qui est un peu resté dans son jus. Tout simplement parce que le nombre d'antennes qui est là déconseille aux gens de rester trop longtemps, bien sûr, dans ce studio. Donc il y a quand même une fonction de tour émettrice. Et c'est là d'ailleurs que depuis la tour que les premières émissions de télévision ont pu être faites dès avant-guerre et pendant la guerre.
Avec les premières images de la tour Eiffel filmées par Georges Méliès, on est en 1897, une tour qui devient un personnage et un décor propice au cinéma, évidemment, de l'homme de la tour Eiffel à la Zazie dans le métro, des uns des autres de Lelouch au Da Vinci Code.
Puis la publicité
s'en est emparée. Vous avez sous les yeux quelques publicités.
C'est Marion Cotillard,
voilà,
pour Dior, avec qui pose sous la tour Eiffel.
Qui escalade la tour Eiffel. Vous avez une belle pub Philips sous les yeux.
Ah oui, magnifique, les illuminations.
Elle est où ma caméra ? Elle est là.
Vous avez, ouais, vous avez le mot Citroën.
Citroën avait illuminé la tour avec son logo. Le nom de Citroën qui était affiché sur la tour. C'était comme un beau tour de force d'ailleurs de le faire.
Air France qui en fait aussi un symbole à un moment donné.
La tour, ce qui est intéressant, c'est que la tour, c'est à la fois une image très forte dans le paysage parisien. C'est le symbole maintenant de Paris, voire de la France. Et c'est en même temps une image qui est un peu abstraite, une structure au fond qui se prête tout à fait à de multiples interprétations, même si elle a conservé sa signification originelle de monument à la gloire de la technique, de la science, de l'industrie. Et aujourd'hui, elle a acquis, au fond, une sorte de puissance d'évocation qui dépasse largement son concept initial.
Et je terminerai avec un calligramme magnifique sous-titré « Poème de la paix et de la guerre 1913 » de Guillaume Apollinaire. Donc, dans une tour Eiffel, il écrit ces mots « Salut monde dont je suis la langue éloquente que sa bouche au Paris tire et tirera toujours aux Allemands ». Voici cette tour Eiffel de Monsieur Apollinaire. Je vous remercie, Savin Yetman.
Merci.
Eiffel. Voilà pour vos mots, pour vos archives. On va les prendre en photo et les diffuser encore parce que ça nous a beaucoup ému de vous entendre parler de vos grands-parents, arrière-arrière aussi, grands-parents ce matin. Et je recommande l'ouvrage, notamment La tour de Monsieur Eiffel de Bertrand Lemoine, notre invité aux éditions Gallimard. 130 ans, fêté ce soir en lumière, ainsi que demain le 16 mai, le 17 mai. Merci messieurs et vive le génie d'Eiffel et de tous ceux qui ont travaillé avec lui. À demain.
C'était le tour de la question avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour se démarquer. Vous pouvez imprimer des timbres avec le logo de votre entreprise en toute simplicité.